Merci donc aux collègues inspecteurs Alain Gourceau, Nicolas Monlivet et Mélanie Perrin de m'avoir invité pour conclure cette belle journée auquel je regrette de n'avoir pas pu participer depuis le matin, donc pour suivre les travaux que vous avez menés donc sur ces nouvelles modalités soit d'évaluation, soit d'activité d'élèves. Donc j'ai trouvé que le contenu de la journée était vraiment axé sur toutes ces nouveautés hein, qui sont celles choisies pour la réforme du lycée, dans le parcours bac moins 3, bac plus 3, hein, puisqu'actuellement, effectivement, cette réforme du lycée, vous le savez, a été faite et s'est fixée comme objectif de mieux préparer les jeunes à l'enseignement supérieur et donc notamment à réussir leur parcours en L. Donc, le travail que vous avez conduit autour de l'évaluation des compétences expérimentales et de la résolution de problèmes montre effectivement combien il est important en amont, et je pense que ça vous a été dit, de désormais rendre l'élève acteur, mais rendre l'élève aussi davantage autonome et davantage en capacité de prendre des initiatives dans la résolution d'un problème ou dans la conduite d'une tâche expérimentale. En tout cas, tous ces points et ces compétences que vous allez leur faire acquérir en amont vont leur servir en aval. Et c'est l'objectif que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment construire ce parcours bac moins 3, bac plus 3, parce qu'effectivement, peut-être avait-on oublié que le baccalauréat n'était pas l'aboutissement du lycée, mais qu'il n'était qu'une étape dans un parcours, notamment puisque nous avons choisi comme objectif d'amener 50% d'une classe d'âge au niveau L. Voilà donc pour cette introduction. Je vais remercier aussi dans le parcours bac moins 3, bac plus 3, l'accompagnement que vous avez pu avoir aujourd'hui par des collègues de classe préparatoire. C'est vrai que dans beaucoup d'académies, ils ont largement accompagné ces parcours en vous apportant des connaissances et compétences scientifiques, notamment liées au fait que le choix des concepteurs de programmes a été d'introduire au sein des programmes davantage de physique et de chimie dites contemporaines, hein, dites modernes, de manière à montrer aux jeunes une science un peu moderne et de pouvoir les engager dans cet agir au XXIe siècle, puisque vous savez que notre défi à tous est tout de même de continuer à attirer les jeunes vers les sciences. Et quand je vous montrerai effectivement quelques chiffres sur l'orientation, c'est vrai qu'il y a encore un travail à faire, et vous êtes ceux sur lesquels nous comptons nous appuyer pour relever les défis de demain et ramener vers la science ces élèves qui, effectivement, s'en sont détournés pour d'autres professions un peu plus lucratives, mais nettement moins passionnantes. C'est effectivement ce que nous allons pouvoir leur montrer à travers les programmes. Alors, comment construire un parcours bac moins 3, bac plus 3 ? C'est vrai qu'effectivement, il faut pour cela des acteurs, un certain nombre d'acteurs dont vous êtes, vous, professeur, la clé. Mais il faut aussi, effectivement, une institution qui vous donne, vous aide à travers, effectivement, les rénovations en amont, c'est-à-dire au niveau du lycée, et en aval, en post-bac, puisse effectivement travailler sur les programmes et la continuité des parcours, comme on le fait entre l'école et le collège, peut-être entre le collège et le lycée. C'est vrai qu'il y avait lieu, et je vous montrerai tout ce qui se fait justement dans les actions de liaison secondaire supérieure. Ça, c'est un premier point. Par contre, vous, en tant qu'acteur, c'est vrai que sur le bac moins 3, bac plus 3, outre la formation que vous allez donner à vos élèves, il me semble que l'important, vous avez une importance aussi au niveau des relations que vous allez avoir avec les familles, donc parce qu'il va falloir les éclairer sur l'après, mais même déjà sur le lycée, puisque le lycée a évolué, et donc il faut arriver à expliquer aux parents quelles sont les évolutions, et j'en montrerai une qui est justement la place de la filière technologique, ça c'est le premier point, donc expliquer aux parents l'évolution du lycée, et d'autre part, expliquer ensuite aux parents et aux élèves l'aval, c'est-à-dire le post-bac qui, effectivement, par rapport à d'autres pays, est quand même très très complexe et continue de se complexifier, puisque et on voit ouvrir un certain nombre de formations, d'écoles, de classes prépa intégrées. Ça devient très complexe finalement, et je pense que c'est important de bien connaître les parcours de façon à aider les jeunes à construire leur parcours en fonction de leurs compétences. Donc en fait, importance de vos relations avec les familles, et puis on le verra, l'importance aussi que vous pourrez avoir dans toutes les relations que vous pourrez avoir avec tous les acteurs du post-bac. Voilà, et donc on vous donnera quelques clés peut-être pour aider à ce parcours. Donc en fait, trois temps. Un temps qui vous expliquera finalement quelques éléments forts de la rénovation des classes préparatoires, mais aussi des autres voies de formation qui sont les sections de techniciens supérieurs, les IUT. Pour les L, ça sera un petit peu plus difficile puisque là, l'autonomie des universités ne nous donne pas la main du tout sur les maquettes des L. Un deuxième temps sur l'orientation des élèves, en vous reparlant de l'orientation vers la première peut-être et d'une voie, la voie technologique qui a changé de paradigme, et donc vous l'expliquez de manière peut-être à voir si ça ne peut pas être pour certains élèves une voie de réussite. Et puis donc l'enseignement supérieur, donc avec quelques chiffres que je vous donnerai parce que c'est important de regarder les tendances et vous donner aussi quelques pistes pour vous informer, parce que quand on conseille, c'est bien d'avoir des éléments chiffrés sur les réussites, sur les stéréotypes aussi, parce qu'on verra que j'ai l'impression qu'il y a un petit retour en arrière avec des filières qui sont davantage filles et d'autres davantage garçons. Et donc, bon, c'est jamais très bon quand tout d'un coup les filières deviennent moins équilibrées du point de vue des représentations des deux sexes. Voilà, et le troisième temps sur ces actions de liaison. Alors, au niveau de la rénovation, donc puisque le nouveau bac, puisque vous mettez en place le programme de terminale, à la rentrée 2013, nous devons préparer l'arrivée des nouveaux élèves dans le post-bac. Et donc, effectivement, ce qui nous a été demandé de faire était de travailler, en ce qui nous concerne, nous avons la main sur les CPGE et les BTS, et nous travaillons, tout comme en amont, avec des professeurs, avec des inspecteurs, sur l'écriture de nouveaux programmes de physique-chimie, dans la continuité, bien sûr, des programmes de S, STL, STI2D, hein, en fonction des filières dans lesquelles nous travaillons, avec une grande adaptation à l'amont, donc vous allez être tout à fait rassurés par rapport à donc, ce que vous mettez en place en terminale. Mais du fait de l'arrivée des assises de l'enseignement supérieur, nous n'avons pour l'instant, on nous a demandé de ne pas toucher aux structures. Donc les structures sont identiques, mais les programmes doivent s'adapter à l'amont. Comme il y avait eu pour notre part en physique-chimie une grande évolution en amont, eh bien de fait, ça impactera les programmes en aval, en CPGE tout du moins. Pour les IUT, il va y avoir aussi un nouveau référentiel national. Nous ne travaillons pas, ce sont directement les responsables d'IUT qui travaillent, mais nous les avons rencontrés, nous leur avons présenté les programmes. Et vous verrez que l'outil de liaison qui vous sera présenté à la fin de ma présentation leur a été distribué comme outil pour eux-mêmes s'inscrire dans la continuité. Pour les L, comme je vous le disais, l'autonomie des universités, mais nous avons des lieux de rencontre, et par exemple pour la chimie, nous avons les journées d'innovation et de recherche dans l'enseignement de la chimie où nous sommes en contact avec des professeurs d'université, des professeurs d'école intégrés et donc auxquels nous avons présenté les nouveaux profils des étudiants. À la rentrée 2014, là j'ai mis un point d'interrogation puisque vous savez qu'actuellement ont lieu les assises de l'enseignement supérieur, hein, donc je vous invite à aller regardez si la question du bac plus 3 vous intéresse, les différentes contributions qui ont lieu, qui sont en ligne sur le site de l'enseignement supérieur, tout comme celle de la refondation pour l'école était sur le site de la concertation. Et donc, vous verrez que l'objectif est d'agir pour la réussite de tous les élèves, hein, donc ce que nous cherchons à mettre en amont au lycée, faire réussir tous les élèves, eh bien, c'est aussi l'enjeu pour l'enseignement supérieur, avec un deuxième enjeu qui est celui de la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, parce que, comme je vous le montrerai sur un certain nombre de chiffres tout à l'heure, eh bien, il y a encore des filières dans lesquelles, des filières qui sont plutôt réservées aux enfants des milieux favorisés, et donc il y a peut-être lieu de s'interroger et d'accompagner davantage les jeunes des familles moins favorisées. Donc, pour réussir, pour construire un parcours Bac-3, Bac-3, eh bien, il y a différents parcours et il y a différents embranchements. Et premier embranchement qu'on peut avoir pour l'élève, c'est à l'issue de la classe de seconde. Donc, les choix qui ont été faits des programmes en physique, notamment, et dans les enseignements d'exploration, en physique-chimie et dans les enseignements d'exploration, a été de choisir ces fameux thèmes un peu attracteurs, notamment la santé pour les jeunes filles, de manière à attirer les jeunes vers les voies scientifiques. Donc développer de l'appétence pour la science, et on pense qu'avec les enseignements d'exploration, il y a moyen de développer de l'appétence, bien sûr de développer des compétences, mais surtout de valoriser les élèves en sciences, hein, parce que c'est vrai que, et là il y a un travail à faire, justement en passant par les compétences, eh bien peut-être si les performances ne sont pas tout à fait au rendez-vous, les compétences petit à petit elles s'empilent, et on peut arriver finalement à avoir de bonnes performances au bout du compte, et donc peut-être éviter, et donc il y a beaucoup en ce moment d'expérimentation, d'un premier trimestre sans notes, enfin j'ai beaucoup d'établissements dans les différentes académies que je suis, où il y a des établissements qu'on choisit, bah, de laisser le temps aux élèves de s'installer, de comprendre les règles du jeu avant de prendre un 7 ou une autre note finalement qui immédiatement va lui dire bah, c'est pas pour moi. Donc il y a peut-être là à inventer et en tout cas valoriser les élèves. Ça c'est quelque chose que font les anglo-saxons, que font les gens d'Europe du Nord et que nous peut-être on fait pas suffisamment. Pour les anglo-saxons c'est toujours bien ce que vous faites et du coup on prend confiance et plus on a confiance et mieux on travaille. J'ai vu récemment les dernières études que j'ai lues en neurosciences étaient de montrer des cerveaux qui travaillaient sans stress. Un cerveau qui travaille sans stress, il a vraiment énormément de connexions qui sont allumées dans la mémoire de travail. Si vous mettez du stress, et ça c'est quelque chose qui est un peu malheureusement un défaut de notre manière de faire travailler les élèves, à la fois le stress au moment des évaluations et parfois le stress au moment des apprentissages, eh bien, ce qu'on arrive à montrer, c'est que la mémoire de travail pour le même travail est nettement moins activée. Et donc, d'où l'importance, et ça c'est vrai que dans d'autres pays, on s'appuie vraiment sur ces recherches, et on sait que si on veut que le travail se fasse, si on veut que la mémorisation se fasse, si on veut qu'ensuite le travail puisse se faire même au moment de la remobilisation, il faut limiter tout le stress. C'est vrai que quand vous arrivez la peur au ventre à un contrôle, eh bien, on peut arriver à montrer que finalement, on a une baisse de performance. Voilà. En tout cas, valoriser les élèves, et puis on essaiera petit à petit de leur faire apporter ces compétences. Mais on garde quand même à l'esprit que le scientifique, ça doit être quelqu'un qui doit maîtriser énormément, énormément de choses, et finalement, peu arrive à passer dans cet entonnoir. Voilà. Ensuite, aide à l'orientation. Donc, je voudrais intervenir sur, bon, bien sûr, vers les voies S, sur la voie technologique. Donc, peut-être, je ne sais pas quel est votre degré d'information sur l'évolution de la voie technologique. En tout cas, du fait de l'existence désormais d'un baccalauréat professionnel, il y a eu une évolution, finalement, des objectifs, enfin des enjeux de la voie technologique. La voie professionnelle, vous le savez, c'est des élèves qui soit s'insèrent, soit pour les meilleurs d'entre eux, peuvent poursuivre. En général, il vaudrait mieux qu'ils aillent en BTS, voire en IUT, mais malheureusement, parfois les places sont prises en BTS et on les retrouve en licence, et ça, c'est catastrophique. Mais en tout cas, au milieu de la voie générale et de la voie technologique, de la voie professionnelle, se trouve la voie technologique, dont STL-PCL. SPCL, donc, qui est sciences physiques et chimiques en laboratoire, dans lesquelles, effectivement, l'horaire en physique, chimie, je vous le montrerai tout à l'heure, est assez conséquent. Cette voie technologique, elle a vraiment pour mission, actuellement, des poursuites d'études. Et ce qu'on sait déjà, c'est que la plupart des élèves qui sont dans les voies technologiques, quand ils poursuivent des études, les poursuivent dans les sciences. Ce qui n'est pas le cas des jeunes de la voie S. Eh bien, voilà. Moi, j'ai lu l'autre jour quelque chose que je trouve très bien de Catherine Moisan, qui est l'IGN qui a piloté les rapports sur la mise en œuvre de la réforme du lycée. Et je trouve très bien son idée de ne plus raisonner pour le lycée en trois voies. générale, technologique, professionnelle, mais de raisonner plutôt en deux voies, hein, l'une professionnelle dont la finalité est l'insertion, sans fermer la possibilité de poursuite d'études, l'autre générale et technologique, d'ailleurs on est aujourd'hui dans un lycée général et technologique, donc qui lui a vraiment pour finalité des poursuites d'études dans l'enseignement supérieur. Au sein de cette voie donc générale et technologique, il y a la série S. Elle est effectivement dominante. On a un tiers des élèves de seconde qui passent en première S. On devait avoir davantage d'élèves en L et en ES, et il faut reconnaître que la rénovation du lycée n'a pas atteint cet objectif. On a davantage d'élèves. La crainte toujours, ils se disent, ben, la S, de toute façon, on fera toujours quelque chose. Et donc, vous avez dû voir à l'issue de la seconde, c'est pour ça que quand je dis amener des élèves vers la S, amener des élèves qui ont envie de faire des sciences vers la S. Mais en tout cas, c'est la série des bons élèves, hein, celle qui couvre toutes les portes, c'est bien ce que dit Catherine Moisan. Or, nous avons besoin de scientifiques, et il y a une politique volontariste, et aujourd'hui je la porte, justement, de revaloriser l'image des séries STL et STI2D. Et c'est comme ça, et dans ces séries, et je vous montrerai tout à l'heure les parcours, vous accédez à des compétences scientifiques aussi importantes, si ce n'est plus, en tout cas pour la physique-chimie, que les élèves de la voie S. Pourquoi ? Parce qu'il y a davantage d'heures de science, hein, et puis davantage d'heures au laboratoire, davantage d'heures en groupe dédoublé. Donc, cette voie, ça mérite, et je vous donnerai quelques liens tout à l'heure, ça mérite vraiment, pour la voie STL-PCL qui nous concerne, de la valoriser auprès des élèves. On sait que dans l'orientation, il y a premièrement les parents, et deuxièmement, et toutes les personnes qui témoignent le disent, c'est l'enseignant. Hein. Donc, vous avez une part importante dans le choix des élèves. Voilà. À l'issue de la terminale, je vous engage pour aider vos élèves, bon, à la fois à aller vous informer sur toutes ces voies à la sortie, puisque comme je vous ai dit, il y a des écoles qui s'ouvrent sans arrêt, et d'ailleurs on verra, c'est le deuxième, que les bacheliers S ont des poursuites d'études de plus en plus dispersées. Donc je vous projette ici des notes d'information qui sont en libre accès sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et pour orienter les jeunes dans l'enseignement supérieur, je trouve que ces notes sont très intéressantes. Vous allez voir, je vous en ai fait quelques extraits, comme ça vous pourrez voir l'intérêt qu'il peut y avoir. C'est des 4 pages, ça se lit assez rapidement. On peut très bien ne lire que ce qu'il y a à gauche ici, et on a. Mais en tout cas, ça peut être intéressant, et j'en ai extrait quelques-unes emblématiques. J'ai extrait celle liée aux classes préparatoires pour montrer un petit peu finalement quel est ce public. Et j'ai extrait aussi celle liée au devenir des étudiants qui s'inscrivent en premier cycle des études de médecine. Parce que ce qu'on verra, c'est qu'on a un choix, enfin, énormément de jeunes qui partent vers ces études, et études pour lesquelles on sait qu'il y a malgré tout des taux d'échec assez retentissants. Donc si vous avez des jeunes, et vous le savez, notamment des jeunes filles qui veulent y aller, c'est peut-être bien de les éclairer, ou peut-être bien de leur dire que justement on peut aller vers le médical en n'allant pas directement dans des études médicales, mais en travaillant sur la physique et la chimie au service de la santé. Alors, pour les poursuites d'études de plus en plus dispersées rapidement, ce que vous voyez ici, c'est comment se répartissent les élèves à l'issue du... Alors ça, c'est le baccalauréat 2008, parce que ces notes, elles sortent. Mais voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a une chute en licence, ça, vous le savez. Donc, et puis, on a à peu près des taux fixes en IUT, STS, CPGE. Vous voyez augmenter de manière absolument importante en pourcentage. Mais c'est... Attention, c'est comme on a ouvert de plus en plus, les numerus clausus ont augmenté, ça veut dire que ça a augmenté en pourcentage, mais ça a augmenté en absolu. Hein. Et puis ces écoles, ces fameuses écoles de communication, des écoles qui ouvrent, des écoles de vidéo, des écoles... Enfin, vous avez toutes sortes d'écoles qui ouvrent, et finalement, les jeunes aiment bien les écoles. Enfin, c'est payant, hein, c'est souvent très cher, mais les jeunes vont dans ces écoles, vous verrez ça. Et puis on a des jeunes qui ne s'inscrivent pas dans le supérieur, donc il y a des jeunes qui disparaissent. Alors ils ne disparaissent pas totalement, il y en a qui prennent des années sabbatiques. Et puis on sait qu'il y a un certain nombre de jeunes qui, pendant un an, s'entraînent avant d'aller s'inscrire en médecine. Voilà, donc de façon à ce que ce ne soit pas comptabilisé. Ce qui est intéressant de regarder, c'est finalement comment s'orientent les jeunes en fonction de leurs résultats. Ce qui est intéressant, là vous voyez, vous avez les notes de mathématiques. Et puis donc, ce qu'on voit ici, ça, c'est les notes au-dessus de 15. Et donc, on voit qu'en CPGE scientifique, vous voyez, vous avez 61% d'élèves qui ont des notes au-dessus de 15. Mais pour répondre à votre question, vous avez 4% d'élèves qui ont des notes inférieures à 8 en mathématiques et qui vont en classe préparatoire. Donc, je n'ai pas dit que ceux-là, ils allaient rentrer à Polytechnique, mais en tout cas, ils y sont. Voilà. Ce qui est plus inquiétant, effectivement, c'est de voir, donc de voir que dans les licences en sciences, alors c'est là que le gros problème il est là, hein, c'est qu'en licence en sciences, et peut-être, parfois on dit les échecs en sciences, les échecs en licence, mais il faut savoir que ce n'est pas le même public qui va en licence que ceux qui vont en classe préparatoire. Donc, bon, il y a sans doute aussi des élèves que nous leur envoyons qui ne sont peut-être pas suffisamment armés, donc on peut souhaiter que. Voilà, qu'avec la réforme du lycée, ils soient un peu plus armés pour aborder, pour s'adapter. Voilà. Pardon ? Ce sont les notes de maths. Je n'avais pas la même chose pour les notes de physique-chimie, ça serait intéressant, mais moi, j'ai pris ce que j'avais dans ces notes et effectivement, ils ont corrélé aux mathématiques. Donc, voilà, vous voyez que... Et dans les CPGE non scientifiques, hein, donc vous voyez que vous avez encore des élèves excellents en mathématiques pour tous ceux qui vont dans les voies commerciales. Autre chose intéressante à regarder, c'est comment on s'oriente en fonction du diplôme des parents. Et là, vous avez un rôle à jouer justement par rapport à l'autocensure, c'est qu'on voit qu'en CPGE, eh bien, la plupart des enfants sont quand même ceux dont les parents ont un bac plus 3. Bon, malgré tout, on arrive quand même à amener des jeunes dont les parents sont non bacheliers. Ça, c'est plutôt une réussite, hein. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'en IUT et STS, vous voyez, ce sont plutôt des familles qui sont moins diplômés, qui finalement vont moins encourager leurs enfants à aller vers des filières plus sélectives. Bon. Et en L1, c'est encore plus vrai. Hein. Donc là aussi, le rôle des enseignants, hein, comme je vous le disais, c'est aussi dans la relation aux familles, dire aux familles si vous pouvez, ils peuvent y aller, vous devez donner confiance aux familles. Hein. Voilà. Et alors après, ce que je vous ai mis ici, c'est l'orientation en fonction filles-garçons, et là c'est ce que je vous disais en début, de ce qui est intéressant à regarder, c'est que les garçons vont plutôt en CPGE scientifique et les filles vont plutôt en médecine. Et c'est pas, et regardez, c'est pas négligeable, hein, puisque vous avez quand même 37% des jeunes filles qui s'orientent en médical et paramédical, alors que seuls 31% vont s'orienter vers des filières scientifiques. Donc il faut dire aux jeunes filles que, contrairement à tout ce qu'elles peuvent entendre, on voit en trois dimensions, on peut faire des sciences et notre cerveau peut entendre quelque chose à des équations mathématiques.
Je me permets de compléter, là, il y a une très grande disparité en plus entre les filières de CPGE scientifiques, puisque entre une classe de BCPST où il y a à peu près 2/3 de filles et une classe de MP où il y a 10% de filles dans les bons cas, il y a des différences énormes. Sachant que la filière PC est à peu près entre les deux, on a à peu près 40% de filles, en gros.
Alors effectivement, en CPGE, 71% des entrants ont un bac S. Et là, ça va corroborer. L'année dernière, on avait 20% d'élèves, donc il y en a un peu moins, il y en a moins d'1% par rapport à 2010, ça c'était en 2011. Mais dans l'université scientifique, c'est là que ça chute terriblement, moins 7,4% d'inscrits en université scientifique. Et donc seulement 30% de filles avec, eh bien, voilà, les disparités dont on parle, c'est-à-dire des jeunes filles qui vont plutôt s'orienter vers des filières toujours biologiques. Voilà. Et des classes préparatoires intégrées qui augmentent, puisque ça, c'est des classes préparatoires dans lesquelles on rentre directement à l'issue du baccalauréat. C'est vraiment une augmentation importante. Et les jeunes choisissent, puisqu'ils n'ont pas le concours au bout. Ils sont directement, simplement, ça limite leur entrée. Je vais avancer un petit peu. Oui, alors ce que je voulais vous montrer justement, c'est ce graphe. Il est très intéressant aussi parce qu'il va vous permettre de voir l'évolution qu'il y a pu avoir dans les écoles d'ingénieurs. Ce graphe vous montre que 3700 étudiants rentrent en L1, c'est-à-dire dès la sortie du baccalauréat, dans une école d'ingénieurs, dans des classes prépa intégrées ou dans des écoles d'ingénieurs en 5 ans. Ça, c'est la sécurisation des parcours. Et c'est assez énorme. Hein, vous avez... Et pourquoi c'est énorme ? C'est si je le compare à ceux qui rentrent en L3, c'est-à-dire ceux qui rentrent à l'issue des 2 années de classe préparatoire ou de 2 années dans l'enseignement supérieur. Parce que là aussi, donc vous voyez, vous avez 9800 étudiants qui rentrent en L3, donc un tiers est rentré en première année déjà en école d'ingénieur. Et si on regarde les élèves qui sortent de deux années de classe préparatoire, seuls 60% rentrent en L3. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, les L3 ne sont constitués que de 60% de CPGE. Les classes préparatoires ont aussi diversifié leur recrutement. Donc, ils prennent des BTS, soit directement à l'issue du BTS, soit après une année d'ATS. Soit ils prennent des DUT, soit ils prennent effectivement des jeunes sortant de l'université. Et puis, ils prennent des étrangers. Donc là, il y a de plus en plus de recrutement d'étrangers dans les écoles d'ingénieurs. Ce qui donne, à la fin, si on prend de L1 à M2, c'est-à-dire pendant les 5 années d'école d'ingénieur, ben vous voyez les différents profils. Et donc, seuls 40% des élèves qui ont fait prépa, dans la population totale des écoles d'ingénieurs, seuls 40% sont passés par les prépas, ce qui vous montre qu'on peut arriver par d'autres voies. Voilà. Pour autant, ça, c'est sur l'ensemble des écoles d'ingénieurs. Attention, ce n'est pas valable. Si je prends une école, vous avez un profil qui est tout à fait différent parce qu'effectivement, il y a des grandes écoles qui vont recruter essentiellement sur CPGE. Ça n'est qu'une moyenne. Mais c'est pour montrer aux élèves, et ça aussi, c'est un message à faire passer parce qu'ils ont toujours beaucoup d'inquiétudes quand ils vont choisir une voie. L'avantage en France, c'est qu'on a des passerelles et on peut effectivement, non pas se réorienter, mais on peut très bien arriver par plusieurs chemins, arriver dans une école d'ingénieur. Voilà. Alors, je voulais vous parler un petit peu des études médicales. Pourquoi ? Parce que ça, c'est important que vous puissiez éclairer notamment des jeunes filles, puisque 2/3 des jeunes filles, 66% de jeunes filles en études médicales. Et ce qui est important à regarder, c'est que vous avez 49 000 étudiants qui rentrent, hein, c'était en 2010, pour 7 400 places. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on parle des CPGE sélectives, mais moi, j'ai envie de vous dire, il n'y a aucune sélection en CPGE hein, pour réussir. Par contre, quand vous allez en médecine, il faut savoir que c'est absolument énorme. Donc, ce que je vous ai mis ici, c'est qu'en fait, seuls 25% des bacheliers accéderont en deuxième année. Enfin, seuls 25% des inscrits entreront en deuxième année de médecine. Mais il faudra qu'ils aient fait 2 ans. La première année, il y a 10% qui passent directement. La deuxième année, quand ils redoublent, il n'y en a que 15% qui rentrent. Donc, vous avez 3/4 d'élèves qui ne rentrent pas en médecine. Après, ils peuvent aller sur des études odontologiques et de sage-femme. C'est-à-dire qu'on a 1/3 de réussite seulement, dont 1/4 seulement pour médecine. Voilà. Donc, je pense que c'est important de les éclairer. D'éclairer les jeunes. Et ce qu'on peut voir justement, et ça je ne me l'explique pas tout à fait, c'est que si on regarde le numerus clausus, il a assez peu évolué. Par contre, les jeunes, ça c'est les nouveaux bacheliers, vous voyez, ça c'est le bachelier de l'année, ils ont augmenté tous les ans, il y en a 25 000 tous les ans, et ça c'est le total des inscrits. Donc vous voyez, vous avez pas le numerus clausus a un peu évolué, pas énormément, mais par contre, les inscrits ont beaucoup évolué. Avec, et là aussi, ce dont on s'aperçoit, c'est que en gris, vous avez les catégories très favorisées, et plus vous descendez, moins les catégories sont favorisées. Si je regarde les inscrits en médecine, c'est les catégories les plus favorisées, enfin, c'est les endroits où vous avez 62,7% de favorisés, de très favorisés, attention, et si je rajoute les favorisés, on arrive quand même à un pourcentage de 75% de favorisés et très favorisés, ce qui est énorme, ce qui n'est pas du tout le cas des CPGE, enfin un peu moins. Bon. Oui, 10%, oui, tu as raison, c'est pas tant. Bon, ça reste quand même effectivement, voilà. Alors que ce n'est pas le cas à l'université, ça c'est sage-femme et ça c'est endotologue. Voilà. En tout cas, ce qu'on s'aperçoit, et on le sait, on sait qu'il y a des officines derrière, on voit que c'est quand même un public très, très particulier. Alors, juste pour avoir ces chiffres clés, et je vous invite à lire cette note, en tout cas, je l'ai mise là-dedans, je ne sais pas si vous le mettrez en ligne, mais on pourra mettre les liens. 1/4 des bacheliers accèdent en deuxième année, 1/3 des bacheliers inscrits en première année se réorientent vers des études universitaires, mais seulement, parmi ceux-là, 36% s'orientent vers des études non scientifiques. Donc ça veut dire qu'on perd là des scientifiques. Voilà. Et il y en a même qui quittent l'université après 1 ou 2 ans, je pense que si vous voulez, d'avoir fait ces études PCE1, PCE2, voilà, ça doit les avoir épuisés. En tout cas, c'est derrière, c'est dur de rebondir. Alors, je sais qu'actuellement, ce qu'ils font avec les nouvelles formations, au bout d'un trimestre, quand ils ont passé les premiers partiels, il y a des élèves à qui ils interdisent de continuer, voilà, pour qu'ils puissent tout de suite se réorienter et qu'ils ne perdent pas de temps. Il y a aussi des équivalences qui leur sont données, donc ce n'est pas complètement perdu, mais en tout cas, voilà. Ça n'est pas les CPGE qui sont sélectives. Voilà. On a vu les continuités des parcours, on a vu donc ces différents paliers d'orientation avec quelques zooms sur des orientations choisies par les élèves de la voie S. Et puis donc, si on veut construire ce parcours Bac-3, Bac+3, comme je vous l'expliquais, ce qui nous paraît fondamental, ce sont les actions lésions secondaires supérieures. Et compte tenu de la complexité et de l'évolution de l'amont, il nous a paru important de construire un outil. Donc cet outil ne vous a pas été distribué parce qu'il comporte une vingtaine de pages et qu'effectivement on est dans une académie durable. Voilà, dans une académie durable.
Ils pourront l'imprimer dans leur lycée.
Vous pourrez l'imprimer dans votre lycée et en faire le meilleur usage possible. Alors quel usage ? Cet outil permet en une vingtaine de pages de dessiner le profil des nouveaux bacheliers scientifiques des voies générales et technologiques à compter de la session 2013. Et donc, il est orienté, pour ce qui nous concerne, sur la formation en physique-chimie du collège au lycée. Donc, ce document a pour vocation à être distribué à tous les acteurs du supérieur. Les professeurs de classe préparatoire qui ont travaillé avec nous sur les programmes ont eu ce document et donc ça leur a permis, parce que c'est difficile de rentrer dans les... Vous avez les programmes officiels, mais ce n'est pas toujours simple. Et un programme officiel, il faut peut-être un petit peu le digérer. C'est-à-dire que si on n'est pas vraiment dans la filière, c'est pas évident. Donc il nous a semblé on a eu envie pour les acteurs du supérieur de faire ce document en présentant donc les thématiques et contenus abordés en physique chimie du collège au lycée dans les différentes filières, ainsi que les compétences scientifiques et générales visées par les programmes et évaluées au baccalauréat. Donc comment est construit cet outil, et vous le trouverez. Donc ce qu'on met bien, c'est ce qui est important, c'est démarche scientifique, acquisition de compétences. Donc on a mis quelques mots-clés importants qu'on va décliner. Et donc, comment est-il construit ? Eh bien, on va donner aux interlocuteurs du supérieur une idée des horaires, une idée de la manière dont sont abordés les concepts. C'est une manière un peu différente de celle du supérieur. C'est plutôt une approche thématique autour de problématiques sociétales ou autour de problématiques scientifiques, hein, la démarche scientifique en première et terminale. On va leur donner une idée des contenus abordés en S, en STL, PCL, vous allez les voir, et en STI2D. Et puis les différentes compétences développées autour de la démarche scientifique, l'analyse de documents, la résolution de problèmes, les compétences expérimentales, les compétences sur la mesure et un petit peu les mathématiques, puisqu'on sait que dans le post-bac, on a besoin d'outils mathématiques. Et puis la cytographie qui permettra d'aller plus loin. Alors, juste pour vous montrer ce document, et il a été écrit pour être lisible par des personnes du supérieur. Donc là, on a raisonné en horaire. Mais non, mais parce que on est dans deux mondes différents quand même. Pas les collègues de prépa ni de STS qui sont dans nos lycées. Mais quand on arrive sur des professeurs pour avoir animé des ateliers justement sur la liaison secondaire supérieure, on est parfois sur deux logiques totalement différentes. Et d'ailleurs, même entre eux, hein, puisqu'il y en a certains qui considèrent que quand on arrive en L1, on fait de la thermodynamique et de la mécanique quantique. Bon, voilà, c'est ça le supérieur. Mais bon, là, effectivement, on arrive à la rupture, hein, si on fait ça. Voilà. Mais pas tous, attention, hein, il y en a qui ont qui contextualisent. Donc, on a écrit, on a souhaité comptabiliser les horaires, mais en annuel. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le supérieur. Dans le supérieur, ils ont des modules de 20 heures, 30 heures, 40 heures. Donc, ça leur permettra de voir quelle a été l'exposition à la physique-chimie. Et c'est là que ce que vous voyez, c'est effectivement, au collège, on a 160 heures, 96 heures en seconde. Et vous constatez qu'avec spécialité, on a 416 heures dans la filière S au total, en sommant seconde, première, terminale et spécialité. Un peu moins en STI 2D, puisqu'ils ont juste un tronc commun de physique-chimie, 3h et 4h. Et puis, c'est là que vous voyez que la filière STLPCL, par contre, en physique-chimie, offre une formation de 1216 heures. Bon. Donc ça, ça leur explique un petit peu ce... Ensuite, nous leur montrons l'approche thématique, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de leur montrer qu'on n'a pas séparé physique-chimie. Hein. Il n'y a plus de scission physique-chimie. En tout cas, il y a observer, comprendre, agir, et en fonction de ça, en fonction des thématiques, on va appeler donc plutôt des concepts du registre de la chimie, d'autres de la physique. Donc là, ils voient comment les élèves sont abordés les contenus. Et là, on rentre dans quelque chose qui est lisible par des enseignants du supérieur, c'est-à-dire qu'en chimie, on a réécrit tous les contenus en constitution de la matière, transformation de la matière, analyse de la matière. Et puis donc, de cinquième à terminale, ils peuvent voir comment on a progressivement fait évoluer le modèle de l'atome. Voilà, jusque comment on a fait évoluer la manière de représenter les molécules en chimie, donc à partir de quel moment ont été abordées les liaisons, les représentations, etc. En physique, et là vous allez voir qu'il y a de l'électricité, contrairement à ce que vous pensez, on a remis tous les contenus sous forme électricité, optique, mécanique, thermodynamique. Et donc, si vous regardez, effectivement, vous avez de l'électricité en 5e, 4e, 3e. Vous en avez un petit peu en seconde, malgré tout, puisque vous continuez sur les signaux périodiques. Vous en avez sur le stockage et la production d'énergie en première S. Et vous en avez, malgré tout, en terminale. Donc, on n'a pas enlevé toute l'électricité. Mais ceci dit, ça permet comme ceci à un professeur du supérieur. Non, j'ai pas l'aspect là. J'ai pas du tout mis l'aspect, j'ai mis que le tronc commun. Oui, mais c'est le programme. Donc ça a été fait pour l'ensemble de ces quatre. Voilà comment ont été réorganisés les mots-clés, les contenus. Et donc ça a été fait pour la filière S, pour la filière STL-PCL. Donc quand vous aurez ce document en main, ça vous permettra de voir quels sont les contenus abordés. Alors en STL-PCL, il y a de l'électricité, beaucoup. Ça, vous regardez sur la gauche, vous avez pas mal d'électricité. Voilà, il y a de l'optique, oui, tout à fait. Et puis vous avez le STI 2D, voilà. Ensuite, comme je vous le disais, mais je vais pas, voilà, donc ça c'est STI 2D, c'est-à-dire que par exemple un professeur du supérieur qui se trouverait en BTS avec des élèves de STL et de STI 2D, puisqu'il peut lui arriver, hein, puisqu'il y a des BTS industriels qui reçoivent les deux publics, et bien du coup il peut faire l'intersection des deux programmes et voir finalement qu'est-ce qui a été vu en amont. Alors rapidement, vous aurez les compétences, je vous prie de m'excuser, vous aurez donc les compétences donc liées à la démarche scientifique, liées aux activités expérimentales, mises de façon très synthétique, pour résolution de problèmes, comme ça donc les compétences expérimentales, ça vous les connaissez, et puis mesurer incertitude, et enfin les compétences mathématiques. Et pour aller plus loin, bien sûr, la cytographie, puisque ce que peuvent faire les acteurs du supérieur, c'est aussi, et on leur conseille d'aller voir les programmes, avec les annales zéro, les activités expérimentales. Voilà, donc voilà un outil qui, nous l'espérons, est à disposition de tous. Et si vous connaissez des personnes qui enseignent dans l'enseignement supérieur, eh bien, ne vous privez pas pour le donner. Je pense qu'il peut même être utile pour un professeur du secondaire. Il peut être utile aussi dans les liaisons collège-seconde. Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc, pour ne pas trop déborder au niveau du temps, les rencontres, des visites, des chartes, des conventions, des expérimentations, on a à loisir, et je vais vous en donner une parce que je l'ai découverte hier et j'ai trouvé que c'était une idée absolument extraordinaire, dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, alors c'est dans l'Académie de Rennes, dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, des élèves suivent des cours à l'université, en approfondissement, et ils vont commencer en anticipation à avoir, ils vont passer des examens et ils auront des ECTS. J'ai trouvé que c'était très original. Voilà, c'est une expérimentation qui est faite. Mais pourquoi pas? Donc le professeur accompagne ses élèves à l'université et puis donc il y a Voilà. Donc je l'ai découverte hier et j'ai trouvé que c'était finalement quelque chose d'assez original en approfondissement. En approfondissement, ce que j'ai l'habitude de faire, puisque je rencontre souvent les collègues de classe préparatoire, c'est de suggérer que des collègues de classe préparatoire proposent des modules d'approfondissement qui permettraient d'être un tremplin vers la CPGE, par exemple. On peut aussi en BTS, que des collègues de BTS le fassent pour des élèves de STL, par exemple. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc j'espère avoir, avec ces quelques éléments, vous avoir donné quelques clés pour construire ces parcours Bac-3, Bac+3. En tout cas, je vous souhaite à tous beaucoup de courage et beaucoup de plaisir aussi à enseigner ces nouveaux contenus et à former ces jeunes de demain. Et bien, écoutez, si vous souhaitez poser quelques questions pour ceux qui ont encore un peu de temps, je reste à votre disposition.